Merci d'écouter RFI. Il est midi et demi en temps universel, 2 heures de plus à Paris. Et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. À Kinshasa, une rencontre inédite hier au Palais de la Nation. Le président Félix Tshisekedi a reçu l'un de ses principaux opposants, Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Les deux hommes ne s'étaient quasiment pas parlé depuis. Au Maroc, c'est aujourd'hui qu'est célébrée l'Aïd, la plus grande fête du calendrier musulman. Une fête un peu particulière cette année puisque le roi Mohamed VI a appelé ses concitoyens à ne pas sacrifier de moutons pour ménager un cheptel affaibli par la sécheresse et épargner de trop fortes dépenses aux ménages les plus modestes. Padre Al-Azraq Zaher, professeur et chercheur en droit des affaires et en économie, est notre invité. Et puis les réactions au travel ban américain. Le Tchad, l'un des 7 pays africains concernés par l'interdiction d'entrée aux États-Unis, annonce des mesures de réciprocité. Un appel tout d'abord pour mettre fin aux souffrances de la population en République démocratique du Congo. Il est signé par 75 prix Nobel, c'est dans le quotidien français Le Monde. Un appel à l'action, Florence Maurice, adressé à la communauté internationale et lancé à l'initiative du docteur Denis Mukwege, lui-même Nobel de la paix en 2018 pour son action auprès des femmes victimes de viols dans l'Est du Congo.
Oui, la liste des signataires est impressionnante. Hein. 75 prix Nobel de nationalité et de disciplines variées, de la chimie à la littérature, médecine ou paix, de l'auteur nigérian Wole Soyinka à David Macmillan, un chimiste britannique. Ensemble, ils dénoncent le silence mondial persistant, disent-ils, qui entoure les crimes commis dans l'Est du Congo. Une tragédie, écrivent-ils, qui dure depuis 3 décennies. 3 décennies de conflits armés, de guerres répétées, de catastrophes humanitaires et de violations systématiques des droits humains et du droit international. Et tout cela dans une impunité enracinée qui alimente à son tour les crises. Ils dénoncent l'absence d'actions significatives pour les endiguer et appelle donc à l'organisation d'une conférence internationale sur la paix pour placer ce conflit négligé au sommet de l'agenda de la communauté internationale. S'agissant de la guerre en cours, il reproche à cette communauté internationale de tolérer, je cite, la présence de l'armée rwandaise dans l'est du Congo, une agression illégale selon leurs termes qui perdure malgré le vote en février dernier à l'ONU d'une résolution appelant le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Les signataires font le parallèle avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie et dénoncent un deux poids, deux mesures.
À Kinshasa, une rencontre inédite, d'aucuns diront historique, hier au Palais de la Nation. Le président Félix Tshisekedi a reçu l'un de ses principaux opposants, Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Fayoulou a toujours affirmé l'avoir emporté. Il avait dénoncé un deal entre Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Depuis, les deux hommes ne s'étaient quasiment pas parlé. Accolade hier sous les caméras, 2 heures d'entretien, dont une en tête-à-tête. Pauline Azidi, est-ce le début d'un rapprochement entre les deux ?
Alors, il y a encore quelques semaines, cette franche accolade entre les deux hommes paraissait inenvisageable. Tout comme cette rencontre qui s'est terminée par ce tête-à-tête, vous le disiez. Mais pour Martin Fayoulou, il y a de fortes inquiétudes sur la menace de balkanisation du pays. Le dialogue, c'est notre seule solution, estime l'opposant. Un dialogue qu'il souhaite sous l'égide des églises catholiques et protestantes, avec le soutien de la médiation togolaise. C'est ce projet porté par les religieux, ce pacte social. C'est le message qu'il a donc voulu faire passer au chef de l'État et le président se serait engagé lors de cet entretien à recevoir les religieux après son voyage la semaine prochaine à Kolwezi dans le sud-est du pays, une information confirmée par plusieurs sources dans l'entourage présidentiel. Maintenant, ce sera aux religieux de convaincre, ajoute l'opposant. Cet entretien a aussi été l'occasion de balayer un grand nombre de sujets, la crise sociale, la crise politique et surtout la crise sécuritaire que traverse le pays avec toutes ses conséquences. Il faut se parler franchement, estime Martin Fayoulou. Du côté de la présidence, on qualifie cette rencontre de positive. Quant à la question d'une alliance et d'une participation de Martin Fayoulou à un gouvernement d'union nationale, ce n'était pas le sujet du jour, conclut Martin Fayoulou.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa. Le Ghana a fait évoluer sa position sur le Sahara occidental. Fini la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Accra soutient désormais le plan d'autonomie défendu par le Maroc. Pierre Firsion l'annonce annonce en a été faite hier à Rabat par le chef de la diplomatie ghanéenne, Samuel Okudezo Ablakwa.
Oui, le ministre ghanéen qui a rencontré hier Nasser Bourita, son homologue marocain, et à l'issue de leur entretien, le Ghana a dit considérer le plan d'autonomie marocain comme la seule base réaliste et durable pour trouver une issue au conflit. Un vrai revirement de la part d'Accra qui soutenait la RASD depuis 1979. Ce changement était en préparation depuis plusieurs mois. Le 6 janvier dernier, la veille de l'investiture de John Dramani Mahama, le ministre ghanéen des Affaires étrangères avait annoncé la suspension des relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique. Hier, les deux pays ont en parallèle relancé leur coopération bilatérale, d'abord par la signature d'un mémorandum d'entente destiné à renforcer la coopération et l'interaction diplomatique entre les deux pays, ensuite en facilitant la mobilité des personnes avec pour objectif à terme de trouver un accord d'exemption de visa. Autre secteur où la coopération est appelée à se développer, la sécurité alimentaire. Selon le chef de la diplomatie ghanéenne, Accra entend désormais se tourner vers les engrais marocains pour développer la culture du cacao et ainsi réduire sa dépendance aux importations alimentaires. Sur un plan régional, Samuel Okudzeto Ablakwa a dit soutenir le projet d'accès portuaire sur l'Atlantique pour les pays enclavés du Sahel, un projet lancé fin 2023 par Mohamed VI.
Des réactions après la décision de Donald Trump d'interdire l'accès du territoire américain aux ressortissants de 12 pays. Le président américain affirme que cette décision vise à protéger les États-Unis face aux terroristes étrangers. L'Union africaine, qui s'est dite préoccupée par le possible impact de telles mesures, appelle l'administration américaine à engager un dialogue constructif avec les pays en question. Parmi ces pays, le Tchad, et c'est peu dire qu'N'Djamena, on ne comprend pas et qu'on n'est pas content. Kassim Cherif Mahamat, c'est le ministre tchadien de la communication.
C'est des propos très choquants, des propos qui sont, à notre avis, qui sont insensés, puisque le Tchad, c'est un pays qui est en avant-garde dans la lutte contre le terrorisme. C'est un pays qui a payé un prix lourd dans la lutte anti-djihadiste, anti-terroriste. Donc c'est un pays qui n'a pas de leçons à recevoir dans le domaine de la lutte anti-djihadiste, dans le domaine de la lutte anti-terroriste. Donc cette décision, elle nous surprend, elle nous consterne, elle est incompréhensible et nous estimons que c'est une décision qui est aussi injuste pour des citoyens tchadiens. Ensuite, le chef de l'État a réagi en disant que le Tchad a instruit la diplomatie tchadienne à appliquer les mesures de réciprocité qui s'appliquent en diplomatie. Désormais, les ressortissants états-uniens, américains, pour accéder au territoire tchadien, ils n'auront pas de visa. Tant que la mesure n'est pas levée, les Américains n'auront pas accès au territoire tchadien.
Des propos recueillis par Alexandra Branjon. Colère au Tchad, préoccupation de l'Union africaine, incompréhension au Congo-Brazzaville. Il est tout de même un endroit en Afrique où le travel ban américain suscite de l'espoir. Et cet endroit, c'est le Somaliland. Cette république autoproclamée s'est séparée de la Somalie en 1991. La Somalie fait partie des 12 pays concernés par l'interdiction de voyage. Pour justifier ce choix, l'administration Trump a évoqué l'échec de l'État somalien à contrôler son territoire. Gaël Alex, ça n'est pas pour déplaire à Hargeisa, la capitale du Somaliland.
La Somalie ne dispose pas d'une autorité centrale compétente ni du commandement et du contrôle de son territoire. Ces mots sont ceux de Donald Trump lors de la présentation de son travel ban. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une nouvelle vague d'espoir du côté d'Hargeisa pour enfin décrocher une reconnaissance. La question a été posée mercredi par le sénateur républicain Ted Cruz devant la Commission des Affaires étrangères. Pour contrer l'influence néfaste de la Chine en Afrique, nous devons remodeler la politique américano-africaine, déclare-t-il. Ajoutant que le Somaliland est un allié de longue date de Taïwan, soutenu également par Washington, quand la Somalie entretient une relation étroite avec Pékin. La cote de Mogadiscio auprès des Républicains se dégrade. Fatigués de financer une lutte antiterroriste qu'ils considèrent inefficace, trois sénateurs ont présenté lundi un projet de loi sur les restrictions de financement de l'AUSOM, la mission de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie. Hier, l'ambassadeur somalien à Washington a assuré que son gouvernement se tenait prêt pour un dialogue avec les États-Unis afin de résoudre les problèmes de sécurité soulevés. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Au Gabon, le président Brice Clotaire-Oligui Nguema a décidé de dénoncer unilatéralement l'accord de pêche conclu en 2007 avec l'Union européenne. Le Gabon estime que cet accord ne lui est pas profitable, Yves-Laurent Goma.
Dans son communiqué publié au terme d'un conseil des ministres, le Gabon dénonce un partenariat déséquilibré dont les retombées économiques restent largement insuffisantes par rapport aux richesses extraites par les flottes européennes. Le Gabon dit craindre des risques accrus de surexploitation des ressources sans bénéficier des investissements et de création d'emplois. Le poisson pêché est directement expédié en Europe depuis la mer, alors que Libreville souhaite qu'il soit débarqué et transformé dans le pays. En conséquence, le chef de l'État a instruit le gouvernement de mettre en œuvre la procédure de dénonciation unilatérale de l'accord, précise le communiqué. Nous avons accueilli cette décision avec surprise, avec une certaine déception, parce que c'est une coopération ancienne qui a été conçue pour essayer de soutenir un intérêt mutuel, a réagi dans la presse locale l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Gabon. Tout en reconnaissant une décision souveraine du Gabon, Cécile Abadi affirme que l'Union européenne reste ouverte aux négociations. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
Au Burundi, l'un des petits partis qui participait hier aux élections législatives et municipales dénonce une mascarade électorale. Le pouvoir et la commission électorale parlent d'un scrutin libre et transparent, mais pour Anissé Nyonkourou, président du CDP, le Conseil des Patriotes, les irrégularités ont été légion.
Il y a eu retrait dans certaines localités des lettres d'accréditation des mandatés des partis politiques pour que les opérations électorales se fassent à huis clos. Et deuxièmement, les bulletins de vote étaient cochés à l'avance et l'électeur venait et prenait un bulletin de vote déjà coché et mettait dans l'urne. Ça, c'est une grande tricherie qui a été observée un peu partout dans le pays. Et troisièmement, vers 16 heures, dans certaines localités, les mandataires politiques des partis politiques se sont vus jeter dehors pour que les décomptes se fassent à huis clos, à leur absence. C'est une grande tricherie. Les élections, en conclusion, ont été faites avec beaucoup, beaucoup d'irrégularités, beaucoup de tricheries. C'est donc une mascarade électorale.
Propos recueillis par Esdras Dikoumana. Il est 14h42 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, des squelettes portant des traces de balles découvertes dans le cimetière militaire de Tiaroy, plus de 80 ans après le massacre de tirailleurs sénégalais par l'armée française. Le Maroc se prépare à une Aïd El Kébir sans sacrifice de mouton. Et puis les sports, nous reviendrons sur la victoire de la RDC sur le Mali hier en match amical. Au Sénégal, 80 ans après le massacre par l'armée française de tirailleurs qui réclamaient leur prime de démobilisation, de tout premier résultat pour les fouilles archéologiques lancées sur le site de Tiaroy dans la banlieue de Dakar. Des squelettes humains avec des balles dans le corps ont été découverts dans le cimetière militaire de Tiaroy, Léa Lisa Westerhoff.
Voilà près d'un mois qu'une équipe d'archéologues sénégalaises sonde le cimetière militaire de Tiaroy à la recherche de squelettes ou de possibles fosses communes de tirailleurs africains. Car parmi les nombreuses zones d'ombre qui entourent ce massacre, il y a ces questions. Où les tirailleurs tués le 1er décembre 44 ont-ils été enterrés? Combien étaient-ils? Selon une source citée par l'AFP, des squelettes avec des balles dans le corps, au niveau de la poitrine pour certains, ont été découverts par les archéologues au niveau du cimetière militaire. Une source selon laquelle une petite section du cimetière a été fouillée permettant d'exhumer des balles de calibres différents qui demandent à être expertisées désormais. Une information impossible à confirmer de sources officielles tant le blackout est quasi complet depuis le début de ces fouilles en mai. Plusieurs sources confirment que des sondages archéologiques ont été effectués au niveau du cimetière militaire de Tiaroy, mais silence sur ce qui a été trouvé. Trop tôt pour en parler pour certains, d'autres évoquent un rapport en cours de rédaction et qui serait présenté en priorité aux autorités sénégalaises avant d'être rendu public, sans doute après la Tabaski. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
La Tabaski, la plus grande fête du calendrier musulman, l'Aïd El Kébir, hein, comme on l'appelle dans le monde arabe. Au Maroc, le roi Mohamed VI a demandé cette année à ses sujets de renoncer au traditionnel sacrifice du mouton. Il s'agit de préserver un cheptel affaibli par la sécheresse et de ménager les bourses des plus modestes alors que les prix s'envolent. À Casablanca, le reportage de Mathias Reynal.
Au marché central, les boucheries tournent au ralenti. Il y a des clients qui ont acheté le mouton vivant et d'autres qui l'ont égorgé avant l'Aïd. C'est n'importe quoi. Le sacrifice est annulé.
Ces derniers jours, la presse marocaine s'est fait l'écho de ces tentatives de contournement des directives royales. Saisie de moutons, camions remplis de bêtes interceptées à la sortie des grandes villes, marchés aux bestiaux fermés par les autorités.
Ces gens ont fait augmenter les prix de la viande de mouton. La fête n'est pas annulée. On va aller à la prière, voir la famille, les amis, se rassembler. Ce n'est pas parce qu'on n'égorge pas qu'il n'y a pas de fête.
Quelques mètres plus loin, Mohamed, serveur dans un restaurant, est du même avis. Cette année, il va célébrer l'Aïd, mais sans mouton.
On va acheter des morceaux de viande de mouton ou de bœuf, on passera la fête ensemble et chacun rentrera chez soi.
Il défend l'appel lancé par le roi Mohamed VI.
Le cheptel est maigre et les prix sont élevés. Il y a des gens qui ont les moyens d'acheter et d'autres non. Donc il a bien fait. En faisant ça, on sera sur un pied d'égalité.
Pour rappel, le cheptel marocain a perdu plus d'un tiers de ses effectifs depuis 2016. Conséquence notamment de la sécheresse et de la hausse des prix des aliments pour bétail. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Badr Al-Azraqzahr, professeur et chercheur en économie, est notre invité dans quelques minutes. Les sports du football, la RDC s'est imposée 1-0 hier face au Mali dans un match amical disputé à Orléans dans le centre de la France. Pour les Léopards, c'était le troisième match consécutif sans encaisser de but après leurs deux victoires en éliminatoire du Mondial en mars dernier. Face aux Aigles maliens, la sélection congolaise s'est rassurée en attaque dans une partie très disputée à laquelle assistait notre envoyé spécial à Orléans, Babacar Diarra.
Il fallait un brin de finesse et de précision pour débloquer une âpre bataille tactique entre Congolais et Maliens. Samuel Essende s'est chargé des travaux dans un joli numéro commencé dos au but, une libération personnelle pour l'avant-centre congolais d'Augsbourg.
Ça fait un an pile que j'ai fait mes débuts en sélection maintenant. Je pense que beaucoup de gens attendaient ce but-là. Moi, je l'attendais aussi, mais avec patience. Et je savais que voilà, c'est ma qualité première et je savais que ça allait venir un jour ou l'autre. Donc on est content que ce soit maintenant et qu'on puisse gagner avec ce but-là.
Un but et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal car l'attaque était l'axe de travail ciblé par le sélectionneur de la RDC, Sébastien De Sabre, pour ce stage de jour.
Oui, on a marqué, notre attaquant a marqué, donc ça c'était plutôt bien. Et ouais, je pense qu'on a fait un bon match et c'est bien, ça va continuer encore à nous donner confiance pour la suite.
Parfois dangereux mais muet à Orléans, les Maliens terminent eux leur saison sur cette défaite. L'attaquant des Aigles, Lassine Sinayoko, ne veut pas la dramatiser.
C'est le manque cruel d'efficacité, on a eu beaucoup de situations, malheureusement ça s'est pas concrétisé, mais c'est comme ça, c'est le football, c'est un match amical, on est là pour se préparer pour les prochaines échéances. Mais on voit que dans le jeu on est dangereux, on est en train de construire un truc de solide, donc ça fait plaisir.
Un état d'esprit positif chez les hommes de Tom Saint-Fit après ce match disputé sur terrain neutre, mais presque comme à l'extérieur.
Voilà, la saison est terminée pour le Mali. La RDC, elle, termine son stage dimanche avec une rencontre face à Madagascar, 14h48 à Paris. Anne Cantner, les grands titres de ce vendredi 6 juin.
La rupture entre Donald Trump et Elon Musk, le ton est monté très vite hier. Insultes et menaces publiques de part et d'autre. Et c'est loin de n'être que symbolique. Le président américain menace de retirer les subventions et aides aux entreprises du milliardaire, dont SpaceX, qui est pourtant essentielle à la stratégie spatiale des États-Unis. Quant à Elon Musk, ses critiques du budget de Donald Trump pourraient contribuer à creuser les divisions au sein de l'extrême droite américaine. Vous pouvez écouter sur ce point l'entretien que nous a accordé tout à l'heure la chercheuse Maud Kessar. Il est disponible sur l'appli RFI Pure Radio. L'armée israélienne poursuit sa guerre à Gaza et appelle à de nouvelles évacuations à Gazaville en ce jour de fête pour la communauté musulmane la plus importante de l'année. L'aide humanitaire n'arrive toujours qu'au compte-gouttes et dans des conditions très contestées hors des circuits classiques. Une information judiciaire vient d'être ouverte en France pour complicité de génocide et crimes contre l'humanité contre des franco-israéliens qui auraient contribué au siège de Gaza durant les premiers mois de l'année. Et puis les nouvelles élections législatives aux Pays-Bas auront lieu le 29 octobre prochain. Scrutin anticipé, précipité par le départ du leader d'extrême droite Geert Wilders de la coalition gouvernementale cette semaine. Le Maroc célèbre aujourd'hui une Aïd dans des conditions particulières. Le roi Mohamed VI a appelé ses sujets à ne pas procéder au traditionnel sacrifice du mouton. On en parlait il y a quelques minutes. L'objectif, c'est d'épargner un cheptel très affaibli par la sécheresse et d'éviter que les plus modestes ne dépensent des fortunes pour acheter une bête. Badr Al-Azraq Zaher est professeur et chercheur en droit des affaires et en économie et il est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Badr Al-Azraq Zaher.
Bonjour.
Il y a peu de précédents dans l'histoire récente marocaine d'un appel du roi à renoncer au sacrifice. Je crois que ça n'est arrivé que deux fois. Comment cette mesure est-elle accueillie dans le royaume ?
Il s'est arrivé trois fois après l'indépendance du royaume en 1956. La première, c'était en 1963, tout en prenant les considérations politiques à l'époque, puisque la guerre des sables a imposé aux Marocains de suspendre ce rituel. Aussi, pour des considérations climatiques aux années 80 et aux années 90, la dernière, c'était en 1996, où le feu roi Hassan II a suspendu le sacrifice de l'Eid. Et aujourd'hui, je pense que les Marocains sont habitués, raison pour laquelle il n'y avait pas des contestation, il n'y avait pas des critiques de cette décision royale. Donc l'ensemble des Marocains, ils ont accepté cette décision royale de suspendre. Surtout, il y avait des considérations en relation avec le volume de cheptel qui a régressé de presque entre 50 et 60%. Et ce sont des taux alarmants et en relation toujours, bien sûr, avec les changements climatiques, avec la sécheresse, avec les conditions économiques. Et aussi, je pense même, les ménages marocains ont été un petit peu soulagés parce que vraiment, le prix d'achat des moutons et des têtes de bétail étaient un peu chers et qui dépassent leur capacité pour financer ce sacrifice de l'Eid. Donc c'était un double soulagement pour l'économie nationale et aussi pour les ménages.
On va revenir sur ces différentes raisons. Un mot d'abord sur ce que dit la presse marocaine. Elle se fait l'écho de tentatives de contournement des directives royales. Des moutons ont été saisis, des camions remplis de bêtes interceptés à la sortie des grandes villes. Pour vous, c'est quoi? C'est marginal?
Non, je pense que ce sont seulement des cas isolés. Il y a certainement certains ménages, certaines familles, certaines personnes qui vont au-delà de la décision royale. Le roi n'a pas interdit. Le roi a demandé au peuple de se confirmer à sa décision royale. Il n'a pas interdit parce que la porte est toujours ouverte devant les personnes qui veulent sacrifier, faire le sacrifice de l'Eid. Mais d'une façon générale, il y avait un retour positif à l'égard de cette décision royale. On a enregistré seulement certains cas isolés. L'interdiction porte sur la vente et pas sur le sacrifice, sur la vente dans des espaces publics. Donc ça, ce qui est interdit. Donc il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de vente publique. Donc il y avait des cas. Aujourd'hui, on sait bien, il y a certains de nos voisins qui vont sacrifier l'Eid. Mais ça reste juste une minorité. La majorité, la quasi-totalité du peuple marocain, ils se sont très conscients de la gravité de la situation, surtout le volume de cheptel et les considérations économiques. Et ils ont accueilli cette décision favorablement.
Alors derrière cet appel du roi, il y a une raison. Vous le dites, la baisse du cheptel en raison de la sécheresse. 7 années de sécheresse consécutive et un cheptel au vin qui aurait baissé de plus d'un tiers. D'abord, quel lien on fait entre la sécheresse et la baisse du nombre de moutons? C'est parce qu'il n'y a plus de pâturage au Maroc?
Il n'y a plus de pâturage et en plus, il y avait une forte demande sur le cheptel national. Donc, chaque Eid, les Marocains consomment plus de entre 5 et 6 millions de têtes. Et suite qu'il n'y avait pas un effort de reconstitution du cheptel national, vu qu'il y avait 7 ans, 6 ans de sécheresse consécutive, donc le volume général de cheptel national a perdu plus de tiers de sa capacité. Donc aujourd'hui, on se trouve devant une réalité vraiment un peu alarmante et préoccupante, raison pour laquelle cette décision était inévitable. Surtout que cette décision royale était prise juste derrière le grand recensement du cheptel national qui a effectivement prouver que vraiment le cheptel national est en régression chronique et on peut même l'année prochaine on se trouve devant des taux de moins de 30 à 40% de ce volume général. Donc voilà, donc c'était une décision bien réfléchie et bien et surtout une décision articulée sur les statistiques.
Donc l'objectif principal, il est de permettre au cheptel marocain de se reconstituer et aussi de soulager les bourses des ménages les plus modestes. Je crois que certains éleveurs disent que si le sacrifice avait eu lieu cette année, le prix du mouton aurait atteint les 600 ou 700 euros, deux fois le salaire minimum.
Et le SMIC, deux fois le SMIC. Et surtout, il y a des pratiques de spéculation. Parfois, ils même dépassent les 10 000 dirhams, c'est-à-dire les 1 000 euros. Et c'est vraiment hors la portée des ménages marocains. Et c'est vraiment ça qui exerce une pression horrible sur le pouvoir d'achat des familles marocaines et qui a des allait retomber surtout sur les couches et les sphères les plus défavorisées, les plus pauvres. Donc aujourd'hui, c'est une décision pluridimensionnelle, à la fois pour préserver le cheptel national et aussi pour soulager les familles, surtout les pauvres et les classes précaires.
En dehors de cet appel à ne pas pratiquer le sacrifice, y a-t-il des mesures concrètes de soutien à la filière ovine qui sont prises par les autorités au Maroc ?
Bien sûr, il y a des subventions directes pour les éleveurs, donc dans la mesure pour qu'ils arrêtent de commercialiser leur tête et surtout leur troupeau, et pour leur donner du temps pour reconstituer le cheptel. En plus, il y a des mesures qui ont été prises au niveau de l'importation des têtes ovins et bovins pour alimenter le cheptel national. Donc, ce sont des efforts qui s'inscrivent aussi dans le cadre d'une stratégie à court et à moyen terme pour permettre au cheptel national de se reconstituer. Et l'année prochaine, certainement, il y aura l'occasion pour le peuple marocain pour fêter l'Eid comme les autres peuples arabo-musulmans.
Merci Badr Al-Azraq Zaher. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Collectif de musiciens originaires d'Afrique de l'Est, il est l'un des groupes les plus attendus du festival Sakifo qui commence aujourd'hui à Saint-Pierre-de-la-Réunion. The Black Jesus Experience ouvre les festivités ce soir avec son 7e album Good Evening Black Buddha. José Marinho.
The Black Jesus Experience est un collectif basé à Melbourne réunissant 10 musiciens maoris, marocains, zimbabwéens ou éthiopiens, tous émigrés en Australie. En une quinzaine d'années, ce groupe s'est imposé comme une référence de la musique de fusion, mélangeant afrobeat, rythmes éthiopiens, jazz, funk et ici rap. Leur dernier album aborde des thèmes liés à l'exil, la mémoire et les luttes passées, l'objectif de Peter Harper, le cofondateur de cette formation, faire passer un message universel ouvert sur le monde au festival Sakifo.
La Réunion nous ressemble beaucoup parce qu'on est né du multiculturalisme. The Black Jesus Experience traverse les frontières avec le même objectif, le métissage des peuples, mais surtout la force du continent africain.
Pour The Black Jesus Experience, chanter, c'est surtout faire circuler la parole là où elle a été longtemps étouffée. José Marinho, La Réunion, RFI.
The Black Jesus Experience ce soir sur la scène du festival Sakifo. Broken glass in the living room, cut up on the chemicals. Ice nights, frostbit, lost in the monster night under the bed. It's your family instead, and you only seen red, already seen death. What's left to lose? The unsaid broken rules. Skipping school, flipping tools with a trade. Hot ones, GTA, no arcade. Living his life away from the age of innocence. When the unthinkable becomes unspoken. Now he's little Swiss, sleeping one eye open. Turbulent emotions, the storm within. The brothers grim, but no fairy tale ending. Just welfare dependence, living in commission television, babysitting where the kids is sick and prone to slip up, giving up before they got started. Look up the godfathers, the blue collar martyrs, uncle locked to mad charges. Won't beg your pardon, that's life beyond the margins. Out of suburbs, sunburn, country where it's sun submersed in a drunk curse with a thirst that's hard to reverse. Et c'est ainsi que se termine cette demi-heure africaine. Réalisé et préparé avec Laurent Chaffard, Michael Goncalves et Cécile Périllard. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
Bon week-end, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous dans pas deux minutes, un tout petit peu plus d'une minute. On se retrouve pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Deux autres options, vous le savez, une demi-heure d'information en full day ou bien en portugais si vous nous écoutez en Afrique lusophone. A tout de suite.
Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025, sera en concert à Paris le 26 juin. La reine du dancehall Made in Guinée vous attend pour un show exceptionnel au New Morning. Invitation gratuite à retirer sur le site du New Morning, sur WizEvent et sur rfi.fr/musique. Prix Découverte RFI en partenariat avec l'Institut français.
Viva Technologies, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologies, vibrez au rythme de l'innovation. Plus d'informations sur vivatech.com. En partenariat avec France Média Monde.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
De l'Afrique aux Amériques, en passant par la Caraïbe, les œuvres de 150 artistes noirs sont montrées au Centre Pompidou. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale, une exposition, mais aussi un salon de lecture, auquel RFI et la bibliothèque archive Bernard Dadier se sont associés.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.